scolaire 2018-2019 a été effective sur l'ensemble du pays le 3 septembre dernier. Cependant, les élèves de certaines contrées de la RDC n'ont pas repris le chemin de l'école pour diverses raisons. À Bijombo, par exemple, dans le sud Kivu, les bâtiments d'école sont encore occupés par les groupes armés. À Maliki, dans l'Ituri, les activités scolaires n'ont pas encore repris à cause d'Ebola et à Malembankulu, dans le Haut-Lomami, la présence des éléphants en divagation a empêché les parents cultivateurs à réunir les frais pour la rentrée des classes, affirme le président de la société civile de ce territoire. Quelle analyse faire de la rentrée scolaire 2018-2019? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Gaston Semena. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Vous êtes ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Madame Cécile Tshiombo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO. Professeur Massiala Masolo, bonsoir.
Bonsoir, Guy.
Vous êtes professeur de psychologie à l'UPN et à l'UPC, ministre honoraire de l'éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État en matière d'éducation. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La rentrée scolaire a été timide lundi 3 septembre dernier dans la capitale. À Kinshasa, les chefs d'établissement évoquaient les difficultés financières des parents ainsi que les revendications soulevées par certains syndicats des enseignants avant la reprise effective des enseignements. Jean-Pierre Elali Coco a sillonné quelques écoles de Kinshasa le même lundi. Suivez son reportage.
Dans la plupart des écoles visitées, les enseignants étaient en place, mais peu ou même pas d'élèves dans des salles de classe. C'est le cas de l'Institut de l'Amitié. Cet établissement public dans la commune de Bandalungwa n'a pu enregistrer que 10 élèves. Selon Foukou Emmanuel, professeur d'histoire de cet établissement, les parents éprouvent des difficultés financières pour scolariser leurs enfants. Même situation à l'EP 1 et 2 de Bandal, d'obédience catholique. L'école n'a accueilli aucun élève sur plus de 500 attendus. Ici, les autorités scolaires déplorent un phénomène devenu courant, la déperdition scolaire. Le directeur Albert Bayekoula attribue cette situation à la concurrence imposée par les écoles privées et à la pauvreté des parents. Les cas des enseignants non payés sont légion dans toutes les écoles que nous avons visitées et attendent une solution du gouvernement, selon certains syndicats des enseignants. À l'EP 1 et 2 Sainte-Anne de la Gombe, les salles de classe sont quasiment vides. En revanche, au collège Saint-Joseph Elikia et au lycée Monseigneur Chaumba, dans la commune de la Gombe, les élèves et enseignants ont répondu présents. Les cours ont repris conformément au mot d'ordre du ministre de l'EPSP.
Merci Jean-Pierre Elali Coco. La rentrée scolaire n'a pas été effective dans le territoire de Malembankulu, province du Haut-Lomami. Selon le président de la société civile de ce territoire qui livre l'information, cette situation est due à la présence des éléphants dans la zone. Neuilly Kabena.
Le président de la société civile du Congo situe d'abord les contrées où la déperdition scolaire est enregistrée. Ce sont les chefferies de Kayumba et Nkulu, notamment dans les villages de Bangwe, Kasenga, Mondwe, Mukubu, Kabala, Butombe. Ici, la présence des éléphants en divagation a empêché les parents cultivateurs à réunir les frais pour la rentrée des classes. Plusieurs hectares des champs ont été ravagés par ces pachydermes. Cette population se trouve sans moyen de prendre en charge des frais scolaires des enfants. Elle lance un cri de détresse au gouvernement ainsi qu'aux partenaires humanitaires pour leur venir en aide. Dans le secteur de Mwanza, la plupart des établissements scolaires sont à cheval entre le couloir des pachydermes et les villages. Personne n'ose s'y hasarder au risque d'être tué. La même source souligne qu'il y a un mois, une femme a été tuée dans ce même couloir. De Lubumbashi, Neuilly Kabena, Radio Okapi.
Merci Neuilly Kabena, monsieur le ministre Gaston Semena. Vous êtes ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Sous quel signe avez-vous placé la rentrée scolaire 2018-2019?
Je dois d'abord vous remercier pour l'invitation et ici confirmer que pour nous, membres du gouvernement, nous avons l'obligation de rendre compte de tout ce que nous faisons et nous sommes heureux d'être là pour cet exercice. La rentrée scolaire, vous l'avez dit, sous quel signe nous plaçons, je dois tout simplement vous dire que le gouvernement a pris des engagements pour que le secteur de l'éducation reste la priorité des priorités. Voilà pourquoi nous, puisque nous avons été désignés responsables de ce secteur, nous prenons donc toutes les dispositions pour matérialiser les instructions de notre hiérarchie, ici à savoir le chef de l'État et le Premier ministre. La détermination d'assurer une bonne éducation à nos enfants, conformément aux deux actes qui sous-tendent ce secteur. Et ici, j'aimerais rappeler la loi cadre de l'enseignement national qui nous recommande l'implication des parents ou mieux des partenaires dans tout ce que nous faisons, que ce soit sur le plan pédagogique tout comme sur le plan financier. Et aussi la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation que le gouvernement a endossée, qui nous recommande de faciliter l'accès des enfants à l'école dans les soucis de l'équité et faire tout pour qu'il y ait rétention de ces enfants, tout faire pour maintenir ou améliorer la qualité de l'enseignement et sans nul doute observer la bonne gouvernance. Donc nous faisons tout ce qui est à notre possible comme membre du gouvernement pour rencontrer ces deux textes et tout en restant conscient que c'est l'éducation qui est le socle du développement d'un pays, c'est l'éducation qui prépare l'avenir de notre pays. Ne voyons pas seulement la situation d'aujourd'hui, nous devons penser à l'avenir. C'est dans cet esprit-là, que nous nous sommes préparés pour organiser la rentrée scolaire de manière paisible, quelles que soient les difficultés liées à l'année actuelle qui est une année de beaucoup d'enjeux.
Alors, Monsieur le Ministre, vous avez suivi les différents reportages. Pour vous, cette rentrée a-t-elle été effective ou pas sur l'ensemble du pays? Quelle est votre évaluation?
Je suis erré, même en suivant les reportages, de vous dire sincèrement que cette année a été exceptionnelle parce que la rentrée scolaire a été effective sur l'ensemble du territoire de notre pays, en dehors de quelques petits points que vous avez ciblés et les raisons, vous les avez bien présentées. Mais sinon, sur l'ensemble du territoire, tout s'est passé normalement, conformément aux instructions que les ministères et même les partenaires ont données à l'ensemble de notre population. Donc l'effectivité a été remarquée. Je peux vous dire que la rentrée était bien effective.
Alors en ce qui concerne les difficultés, nous avons dans la zone de Béni et les environs, il y a ce problème d'Ebola et vous avez suivi, si ce n'est pas Ebola, c'est des éléphants qui ravagent les champs, qui empêchent les parents d'avoir de l'argent pour scolariser les enfants. Si ce n'est pas ça, ce sont les groupes armés qui occupent des écoles, qui empêchent la rentrée scolaire. Par rapport à toutes ces difficultés, quelle est la solution préconisée au niveau du gouvernement?
Je crois que vous venez de citer trois cas. Parlons de la maladie à virus Ebola qui sévit dans l'espace de Béni avec une petite partie de l'Ituri. Le gouvernement est à pied d'œuvre et nous avons reçu le ministre de la Santé qui nous a rassurés que toutes les dispositions sont prises pour endiguer, pour bloquer, pour étouffer cette maladie et qu'il avait besoin, lui, ministre de la Santé, des élèves au niveau de leurs écoles pour continuer la sensibilisation afin d'adopter des comportements adéquats pour vaincre cette épidémie. Voilà pourquoi nous avons sensibilisé les parents, nous avons sensibilisé tous nos partenaires à envoyer les enfants à l'école parce que les enfants donnent l'information par rapport à leurs parents qui n'ont pas le même niveau. Les enfants devaient donc jouer les rôles des sensibilisateurs et cela a été fait. À ce qui concerne la partie où on a connu malheureusement un cas d'insécurité où des groupes armés se sont réfugiés au niveau d'une école, c'est dommage. C'est dommage que jusqu'à ce jour, il y ait encore des gens qui ne comprennent pas le caractère sacré de l'école, au même titre que les hôpitaux, au même titre que les églises, parce que c'est l'école qui forme. Voilà pourquoi quand il y a des poursuites au niveau de la Cour pénale internationale, parfois des gens pareils sont poursuivables parce qu'ils ne comprennent pas. C'est bien dommage, mais comme tous ces gens-là qui arrivent à se méconduire font partie de la population. Nous continuons à sensibiliser notre population afin que tout le monde comprenne que c'est à l'école qu'on prépare l'avenir, c'est à l'école qu'on prépare les gens à l'esprit de paix, à l'esprit de travail, à l'esprit de développement. Il n'est pas souhaitable que nos écoles connaissent cette situation. Mais ça concerne la situation de Malembankoulou, ça c'est un cas, une sorte de catastrophe naturelle, c'est-à-dire qu'un mouvement inattendu de bêtes, c'est imprévisible, mais le gouvernement provincial déjà est en train de faire quelque chose, le ministère de l'Environnement aussi, et s'il y a des cas graves, le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de Solidarité Action humanitaire, peut toujours intervenir.
Merci, Monsieur le Ministre. Je reviens à vous tout à l'heure. Madame Cécile Tshiombo, vous êtes secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo SIECO. Pour vous, cette rentrée 2018-2019 a été effective ou pas?
Là, je m'en vais dire que elle peut ou n'est pas être effective, tout simplement, puisque même dans la ville de Kinshasa où moi-même je vis, j'ai eu à faire le tour le lundi et j'ai constaté qu'il n'y avait que les enfants qui défilaient devant les grandes écoles, et même si ce sont des grandes écoles, mais il n'y avait pas engouement. Il n'y avait pas engouement et que les écoles des périphéries n'ont pas eu à avoir des enfants. Et aussi, et vous veniez de le dire et à suivre les interviews ou les reportages, nous avons eu à avoir l'image, puisque les images communiquent. Les images communiquent sur les chaînes de télévision. Nous avons eu à suivre et à voir ce qui s'était passé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi-même, je suis dans une salle de classe. Je suis directrice d'une école. Et les parents se plaignent. Les parents se plaignent si la rentrée, qui est l'apanage du gouvernement, et que c'est le gouvernement qui en est le premier responsable et qui en fixe les modalités, les parents n'ont pas eu à envoyer leurs enfants à l'école. C'est tout simplement puisque il y a un système que nous avons tous décrié, un système qui, au jour d'aujourd'hui, a été institutionnalisé, et que les parents qui avaient proposé ce système à travers une église n'arrivent plus. Ses parents n'arrivent plus.
Vous voulez parler de la prise en charge des parents?
Et là, je m'en vais, oui, c'est là où je m'en vais parler de la prise en charge des enseignants par les parents. Et aussi, vous savez, et aujourd'hui, avec la montée du dollar, il y a problème. Il y a problème sur les marchés, tout s'achète cher. Tout s'achète cher, l'enseignant étant aussi parent, n'arrive plus à prendre ses enfants à lui en charge. J'ai suivi sur la radio RC et je m'excuse, c'est la radio
RC. Disons, vous pouvez y aller sans la citer, oui, une radio de la place.
RMCA, et qui a parlé des élèves qui n'ont pas été à l'école, tout simplement, puisque à Kiala et le Solo, les bâtiments ou les écoles sont habités par les militaires. Vous comprendrez avec moi que ces écoles qui n'ont pas ouvert leurs portes l'année passée et cette même l'année ici, ces écoles continuent à être occupées par les militaires. Vous comprendrez que même si nous pouvons parler de certains points, des petits coins où les enfants n'ont pas pu aller à l'école, mais néanmoins, il y a problème. Il y a problème. Le problème, c'est quoi? Le problème est que les parents n'arrivent plus à prendre les enfants en charge, et puisque l'article 43 de la Constitution parle de la gratuité de l'enseignement fondamental.
Alors, madame, on se souvient que généralement, la veille de toutes les rentrées scolaires, il y a beaucoup de pression de la part des syndicats qui menacent d'aller en grève, mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du dialogue avec le gouvernement?
Il n'y a rien qui s'est passé, mais néanmoins, nous avons réfléchi autrement. Nous avons réfléchi autrement, nous avons laissé faire pour constater et savoir prendre position à un autre moment. Puisque vous savez, quand nous sommes pendant les vacances, le contrat est coupé. Les enseignants ne sont pas agents et fonctionnaires de l'État, ce sont des journaliers, ils ne sont pas payés par l'État congolais. On paye les postes et non l'individu. Vous allez comprendre avec moi que lorsque nous sommes en vacances et que nous rentrons à l'école, c'est à ce moment-là que nous sommes en train de nous dire qu'il faut constater et savoir quoi faire pour aller et rencontrer les décideurs afin qu'ensemble nous puissions trouver solution au problème. Il y a eu la signature d'un accord l'année passée, c'est l'accord du 2 septembre 2017. Et cet accord, dans son entièreté, n'a pas trouvé solution, si ce n'est que les 5000 enseignants qui étaient payés. Il y a le taux budgétaire qui n'a pas été respecté et par rapport au salaire de l'enseignant. Et tout ça fait mal. Il y a les NP, il y a les retraitables, les inspecteurs,
alors, madame,
ainsi de suite.
Peut-être que tous les auditeurs ne maîtrisent pas le tenant et les aboutissants de cet accord. Qu'est-ce qu'il stipulait brièvement?
Et brièvement, il était dit qu'il fallait payer l'enseignant au taux budgétaire. C'est-à-dire, avec l'inflation, l'enseignant est payé au taux de 93 000. Et il était dit qu'il serait important que le budget 2018 prenne l'enseignant en charge pour qu'il soit payé au taux de 142 500 francs congolais. Il était dit que chaque mois, l'État devait payer 5000 enseignants. L'État devait prendre en charge les enseignants éligibles à la retraite. Et l'État devait trouver des moyens pour que les enseignants soient répertoriés. Et il y a les enseignants communément qui sont plus ou moins 100 000 NU, ce sont les enseignants nouvelles unités qui ne sont même pas pris en compte.
Et donc de tout ça, rien n'a été fait selon vous par le gouvernement?
Non, nous ne disons pas que rien n'a été fait, mais néanmoins, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche lorsque nous regardons au niveau du paiement, par exemple, du salaire additif. Nous prenons la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas touché les 25 000 francs pour les mois d'août, septembre, merci, et 5 000 novembre et décembre 2017.
Merci, madame. Je vous redonne la parole. Professeur Massiala Masolo, vous êtes professeur de psychologie à l'UPN et à l'UPC, ministre honoraire de l'Éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État en matière d'éducation. Vous avez suivi le ministre Gaston Moussemena et madame Cécile Tshiombo du CIECO. Quelle est votre analyse à ce niveau, professeur, par rapport à la rentrée scolaire 2018-2019?
Merci beaucoup. Vous êtes en train de galvauder deux concepts. En même temps, la rentrée scolaire, qui est la même tous les ans. C'est depuis 1994 que j'étais à l'enseignement primaire secondaire. Il n'y a pas eu une année où il n'y a pas eu une agitation ou une timidité à la rentrée scolaire. Et deuxième concept, c'est la déperdition scolaire. Les personnes scolaires, ça, c'est mon thème de thèse que j'ai soutenu à Genève en 1981, le 4 décembre. C'est deux concepts différents. Ici, il s'agit de la rentrée scolaire 2018. Nous avons été tous témoins qu'effectivement, il y a eu timidité. Et la timidité, elle est normale. C'est la première fois que les enfants rentrent depuis de longs mois de vacances, et ils doivent réapprendre à aller à l'école. Et deuxièmement, il y a timidité parce que il y a ce tissu politique qui ne rassure jusqu'à aujourd'hui personne. Il faut avoir le courage de le dire. Vous voyez? Donc, les parents ont la suspicion, les parents se réservent, ont des retenues, ainsi de suite. Et enfin, il y a la situation socio-économique. Socio-économique, les parents sont essoufflés. Et ce constat doit être un signe de temps, mais aussi riche à des corrections qu'il faut apporter, pas seulement au niveau de l'État, mais au niveau des parents, des familles. Limitation des naissances dans les familles, pour avoir un nombre suffisant et pas grand des élèves qui doivent aller à l'école. Et la préparation de la rentrée scolaire qui ne doit pas se faire la dernière semaine. Regardez la ville comme elle est inondée par des parents qui vont acheter des cahiers, qui vont acheter des uniformes, voici le BIC, ainsi de suite, la dernière semaine. Et toutes les réunions de promotion scolaire dans toutes les provinces, moi je suis ça de très près. J'ai même participé à plusieurs réunions de promotion scolaire dans ma province, le Congo central, et j'ai constaté que c'est toujours dans le dernier mois, si pas dans le dernier quinzaine de mois d'août que cela est organisé. Et les parents ne sont pas informés de ce que sera l'année prochaine, avant les vacances. Les vacances, c'est le 2 juillet, normalement. Mais les bulletins, et ainsi de suite, c'est bien après le 15 août, voire même début du mois de septembre maintenant, que nous recevons le bulletin des vacances. Donc il y a beaucoup d'infirmités qui fait qu'il y a une souffrance réelle. Cette souffrance doit faire l'objet d'examen à la fois de la part des parents, à la fois de la part de l'État et à la fois de la part des animateurs des écoles dans notre pays. Vous avez souligné la question de violence, et même de guerre, c'est pas guerre, mais en tout cas c'est quelque chose de semblable dans le Nord Kivu et dans les Turi. Vous l'avez bien dit. C'est normal que les parents ne puissent envoyer leurs enfants quand il y a de telles difficultés. C'est comme un opérateur économique. L'opérateur économique, c'est une bête peureuse. Il ne peut pas investir son argent dans le trouble. Et l'enfant, c'est une pièce précieuse qu'on ne peut pas mettre dans la rue quand il n'y a pas une sécurité.
Professeur,
donc, il y a plusieurs enseignements.
Professeur, vous avez évoqué le contexte politique qui ne facilite pas les choses. Nous savons que la période électorale, c'est toujours un moment fort pour une
très
nation.
Fort, oui.
Devrait-on craindre que cette année scolaire ne soit mouvementée?
Mais ça a toujours été comme ça. Je suis content que le ministre a pu préciser que le gouvernement a pris des précautions. Mais c'est là qui trouble le tissu sociopolitique. Ce n'est pas des gens qui ne font pas ça de bon cœur. Il ne faut pas ça de bon cœur. Donc c'est pratiquement imprévisible. Mais il faut s'attendre à ça.
Il y a aussi, professeur, la question, là, on s'occupe des enfants, de la rentrée scolaire, mais il y a aussi la situation des enseignants qui ne semble pas beaucoup évoluer.
Il y a 145 000 enseignants qui sont, il y en a qui sont mécanisés, mais qui ne sont pas payés chaque mois. Même si ce sont des contractuels, mais ils doivent manger, ils doivent se déplacer, ils doivent s'habiller. L'enseignant doit aller en classe bien propre. Donc il a eu du savon, il a eu de l'eau. Vous voyez, il a pu payer le billet de transport de sa maison, s'il a une maison ou la maison qu'il loue, jusqu'à l'école. Mais s'il n'est pas payé, donc il va essayer de rançonner, et les élèves, finalement, ceux qui sont rançonnés ne sont pas les élèves, ce sont les parents. Et les parents entrent dans le découragement. Ils disent, mais votre enseignant en français, mais il nous demande toujours un œuf, toujours une banane, toujours une pomme de terre, je ne sais pas. Donc tout ça, ce sont des facteurs sociaux qu'il faut que l'État congolais et nous, les enseignants du supérieur, puissions prendre en compte pour éclairer la lanterne et normaliser la situation qui est atypique. Aujourd'hui, la situation, elle est vraiment atypique et
je dis irresponsable. Merci, professeur. Monsieur le ministre Gaston Moussemena, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Lualaba.
Apologie de la province du Lualaba. N'est pas cité où les élèves n'ont pas réussi le chemin de l'école n'est qu'un échantillon, car la réalité en est que même ceux qui ont repris le chemin de l'école, leurs parents attendent l'accomplissement du miracle pour que les enfants terminent sans se faire chasser, soit pour raison de frais scolaires, soit retourner à la maison pour le même compte de lever si haut. Alors on a un gouvernement qui ne sait pas anticiper les événements, ni respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des parents qui sont envoyés dans la fonction publique, et même de la constitution qui garantit la gratuité de l'école primaire. Et à cela, ajoutons aussi la problématique des enfants qui sont dans les sites miniers, qui n'ont pas repris l'école. Depuis ici, à Corésie, où ils sont identifiables dans presque toutes les carrières. Que pense le gouvernement par rapport à tous ces problèmes?
Monsieur le ministre, vous allez ramasser cette préoccupation et bien d'autres. Vous avez la parole.
Oui, je dois d'abord remercier tous mes co-débatteurs parce qu'au moins nous tous, nous reconnaissons que les instructions du gouvernement ont été suivies et y a y rentré réellement. Mais dans certains endroits, cette rentrée a été remarquée comme timide pour plusieurs raisons. Et Mme Cécile Tshiombo a évoqué le cas de la prise en charge qui est une question qui est toujours à discussion entre le gouvernement et les banques syndicales. Et d'ailleurs,
quand est-ce que cette prise en charge, Monsieur le ministre, pourrait cesser?
Nous avons la volonté de faire cesser cette prise en charge, mais je vous ai dit en évoquant la loi cadre de l'enseignement qui nous recommande l'implication des partenaires dans tout ce que nous faisons, que ce soit sur les plans pédagogiques, je vous l'ai dit, que ce soit sur les plans financiers, parce que nous tous, nous visons la qualité de l'enseignement. Et la qualité de l'enseignement, ce n'est pas par la parole, c'est par des actes, par toute une conjonction d'actes pour qu'on y arrive. Et les parents n'ont pas le droit de nous laisser, nous gouvernement, seuls, plancher sur cette question importante parce que l'éducation, ça nous concerne nous tous. Et nous continuons les discussions. Les discussions sont en cours. J'étais en train de répondre à la préoccupation de l'intervenant. Il y a y rentrer. Oui. Nous remercions parce que le gouvernement a pris toutes les dispositions, mais il y a encore des problèmes. Nous reconnaissons qu'il y a des problèmes personnels, des problèmes qui devraient être résolus, qui devraient être suivis par le gouvernement. Il y a aussi des problèmes, comme le professeur Massiala l'a dit, qui concernent aussi les parents. Tout ça, nous devons ensemble réfléchir sur toutes les pistes des solutions. Parce que lorsqu'il évoque les cas des enfants qui sont dans des zones minières, ça relève de la sensibilisation des parents. Les parents doivent comprendre qu'à un certain âge, les enfants ne doivent pas travailler. Les autorités locales doivent aussi surveiller pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants dans les mines, parce que la place des enfants, c'est dans les écoles. Nous sommes conscients, l'essentiel pour les gouvernements, c'était d'abord que nous reprenions les études des enfants, la rentrée scolaire a eu lieu, les autres aspects des questions liées au bon fonctionnement de notre secteur de l'éducation, nous continuerons les discussions avec les bases syndicales, nous continuerons les discussions ou les négociations avec les parents, nous continuerons les discussions avec tous les autres partenaires techniques et financiers qui s'intéressent au secteur de l'éducation pour qu'on arrive à améliorer la qualité de notre éducation ou enseignement.
Monsieur le ministre, vous avez donné des instructions très précises au chef d'établissement qui devrait recevoir les élèves sans condition aucune, mais sur terrain, on se rend compte que plusieurs écoles se sont transformées en centres commerciaux où tout est vendu, les uniformes, et ces écoles exigent que les parents achètent tout là-bas et demandent des acomptes très exorbitants et les parents sont essoufflés, n'en peuvent plus.
Nous recevons des rapports dans ce sens-là. On stigmatise le comportement de certains responsables des écoles de certaines confessions religieuses. Jusque là, nous sommes en train de rassembler les éléments pour que nous voyions comment prendre des dispositions idoines afin que les écoles de ces confessions religieuses se conforment à nos textes. Parce que nous tous, nous avons un même objectif. Et nous savons tous qu'il y a des difficultés parce que les parents n'arrivent pas à toujours faire face à leurs responsabilités quant à l'éducation des enfants. Il ne faudrait pas qu'il y ait encore parmi nous des gens qui refusent d'alléger la tâche aux parents, surtout que nous tous, nous prenons beaucoup de choses.
Monsieur le ministre, très brièvement, cette année, elle est électorale. Beaucoup de parents craignent qu'on connaisse une année scolaire très mouvementée.
Nous, au niveau du gouvernement, nous continuons à prêcher que l'éducation n'a aucune coloration politique. Si réellement nous voulons que notre pays soit émergent demain, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, on doit accepter que son enfant aujourd'hui se prépare à cette émergence et cet enfant ne peut se préparer que sur les blancs de l'école, ne cesse de rappeler Joseph Kabila, chef de l'État.
Madame Cécile Tshiombo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Oscar Kabouria à Kananga, dans la province du Kasaï central. Tout en sachant que les circonstances exceptionnelles ne peuvent pas manquer dans un pays post-conflit et qui continue toujours à faire face à l'activisme de certains groupes armés, sans oublier les grands fléaux de l'épidémie du virus Ebola auquel notre gouvernement est en train de déployer tous les moyens nécessaires pour mettre fin à ceci. Il est en tout cas nécessaire et impérieux d'accompagner le gouvernement congolais dans toutes ces mesures prises sur n'importe quelle situation pourvu que tout ceci ne puisse plus impacter négativement sur la formation de nos élèves. Nelson Mandela n'avait-il pas alors affirmé que l'éducation demeure l'arme la plus puissante pour changer le monde? Cela étant, j'invite tous les partenaires de ce secteur à vouloir bien aider tous ces élèves qui sont presque dépourvus de tout, afin qu'ils reprennent si tôt le chemin de l'école, au même titre que ceux des autres provinces, pour que le programme national d'enseignement ne soit pas vraiment perturbé sur toute l'étendue du territoire national. Car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir.
Voilà, vous êtes partenaire du gouvernement, Madame Tiombo. Vous n'avez pas fait grève au début de cette année scolaire. Les parents ne vont-ils pas craindre qu'à un moment ou à un autre surgisse une série de mouvements de grève?
Merci beaucoup, surtout à l'auditeur qui vient de parler de l'accompagnement du gouvernement. Je sais que nous sommes partenaires et nous sommes partenaires attitrés du gouvernement congolais et s'il y a tache d'huile, nous faisons tout pour que la tache d'huile soit effacée sur cette surface blanche. Et là, je m'en vais dire que je ne suis pas là pour accompagner le gouvernement, mais je suis là pour rappeler au gouvernement ses engagements, puisque tout partenaire, c'est de la même manière aussi que le partenaire gouvernement peut aussi rappeler les engagements des partenaires sociaux. C'est-à-dire, si les enseignants étaient mieux pris en charge et qu'il arrive qu'ils ne travaillent pas comme il se doit, ils ne préparent pas leurs documents pédagogiques, ils n'arrivent pas à l'école à temps, ils n'enseignent pas, ils sont là à errer ça et là. En ces moments-là, le gouvernement a le devoir de rappeler aux enseignants et aux partenaires sociaux le devoir de l'enseignant et de ses partenaires sociaux. Et de la même manière, les partenaires sociaux, que ce soit les parents, que ce soit le syndicat, ils sont là pour rappeler aussi au gouvernement qu'il y a telle disposition de la loi qu'il faut savoir respecter. Et lorsque ces dispositions ne sont pas respectées, il y a des processus à suivre. Il y a des rappels, il y a des mémos qu'il faut déposer, il y a des cahiers de charges qu'il faut déposer. Mais lorsque nous en arrivons au bout, c'est en ce moment-là qu'on se dit qu'il y a des batteries qu'il faut décharger. Et ces batteries, lorsqu'on les décharge, ça fait mal, oui. Mais nous regrettons tout simplement que lorsque nous sommes dans l'état normal, nous regardons qu'il y a une éducation à double vitesse. C'est là où nous disons l'enseignant est aussi parent. L'enseignement à double vitesse, il n'y a pas que l'enseignant lui-même. Il y a la pauvreté, puisque le professeur Massiala a parlé de la situation économique du pays. Vous allez accepter que la dévaluation de la monnaie fait que le parent n'arrive pas aujourd'hui à supporter les études de leurs enfants.
Madame Tiombo, plusieurs observateurs évoquent le fait que le niveau de l'enseignement a baissé à travers le pays, tout autant que celui des enseignants. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, au niveau des syndicats pour faciliter la remise à niveau des enseignants?
Mais la remise à niveau de l'enseignant, c'est d'abord la tâche première du gouvernement congolais. C'est le gouvernement qui doit savoir recycler l'enseignant. Mais toutefois, nous avons une formation ouvrière. Cette formation ouvrière n'arrive pas facilement, tout simplement, puisque il y a les partenaires qui soutiennent, mais qui, à un certain moment, lâchent. Ils lâchent, puisque vous savez que la main qui donne, c'est la main qui est supérieure. Et lorsque nous formons, nous ne formons pas tout seulement à relever les niveaux pédagogiques, mais il y a d'autres choses qu'il faut apprendre à l'enseignant. Il y a les droits de l'homme, par exemple, les droits que l'enseignant doit pouvoir avoir, et il doit savoir le défendre pour l'acquérir. Vous comprendrez avec moi que je me répète et je dis, c'est le gouvernement congolais qui doit pouvoir recycler l'enseignant pour que nous puissions arriver à l'émergence.
Professeur Massiala, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Kikiri Chomba de Bukavu au site Kivu. C'est devenu une routine à chaque rentrée scolaire en République démocratique du Congo, caractérisée par une impréparation. Pour moi, ce tableau semble sur la rentrée scolaire en RDC et le reflet de la légèreté et de l'impuissance, voire même le manque de la volonté pour améliorer le secteur éducatif par la gouvernance congolaise. À mon avis, l'État devait commencer par faire un état des lieux avant de fixer la date de la rentrée scolaire 2018-2019. Je pense que le secteur de l'éducation en RDC souffre du fait que l'État n'a jamais donné une importance pour ce secteur. Pourtant, l'avenir du pays repose sur l'éducation. Ça saute aux yeux que la priorité est ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté politique pour améliorer le secteur éducatif. Ainsi, l'avenir devient de plus en plus incertain.
Professeur, le ministre Gassom Semena a soutenu qu'au niveau du gouvernement, l'éducation est la priorité des priorités. De votre point de vue, le gouvernement se donne-t-il les moyens pour cela?
Bon, c'est une question difficile, parce que je ne suis pas seulement enseignant, mais je continue à être celui qui pense au système. C'est Pérécois et moi-même avions conduit les travaux de la réforme des États généraux de l'éducation en 1995-1996, qui allait concerner vraiment une refonte du système à l'époque. Donc c'est l'État qui a provoqué cela et qui a donné de l'argent. Bien sûr, nous avons reçu des contributions des partenaires internationaux, comme d'habitude, mais l'idée est venue de l'État lui-même. Et quand le ministre parle, il parle avec beaucoup de fierté, beaucoup de détermination, qu'il y a un effort de l'État pour améliorer la qualité de l'enseignement. Ça se constate, effectivement. Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas encore. Hein. Il a rappelé, et ça c'était la production des États-Unis de l'éducation, que nous sommes tous des partenaires au système. C'est comme des personnes qui veulent se noyer dans un fleuve ou dans une mer et qui se trouvent sur une barque. Et tous doivent rester fidèles. Il faut une forte fidélité pour tout le monde. Sinon, si la barque chavire, c'est tout le monde qui chavire, l'enfant y compris. Or, tout est l'enfant d'abord. Donc, il y a un effort, mais qui se laisse ravaler par le contexte dans lequel nous sommes. J'ai dit que nous sommes dans un contexte atypique sur tous les plans, sur le plan politique. Vous voyez, les discussions byzantines auxquelles nous assistons, enfin, nous écoutons, hein, les problèmes de guerre, les maladies qui viennent se prendre à la République juste à la veille de la rentrée et pendant la rentrée scolaire. Donc, j'ai dit que c'était des signes de temps. Il faut que les Congolais, nous concertions et que nous puissions, je ne sais pas, nous réconcilier ou quoi, réconcilier avec Dieu, pour que nous soyons épargnés de tout ce qui nous trouble.
Monsieur...
Ça trouble, et ça trouble, malheureusement, l'enfant. L'enfant, c'est la priorité des priorités.
Merci, professeur.
J'assiste à 52 enfants dans cette ville ici qui vont à l'école primaire, l'école secondaire, et même de temps en temps un ou deux à l'université, parce que c'est vraiment ça, c'est le fondement, l'éducation c'est le fondement.
Merci,
si on
professeur.
Reste former quelqu'un, eh bien c'est la communauté qui sera en souffrance. J'ai dit de prendre l'initiative de construire une école primaire et secondaire dans mon groupement à Milutolo Apato. Nous avons décidé d'aménager la route qui mène vers l'école et au-delà, pour que les parents aient la possibilité de vendre leurs bananes,
professeur,
et payer les frais scolaires ainsi que les soins de santé.
Merci, professeur.
Il faut que nous ayons des initiatives, pas des gens qui...
Merci, professeur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Souffrez que je vous arrête, monsieur le ministre. L'émission est en train de se terminer. Y a-t-il des éléments qui peuvent être considérés comme des innovations pour cette année scolaire?
Absolument. Des éléments d'innovation, c'est par exemple la mise en application de l'éducation de base, du programme de l'éducation de base On a parlé de la septième année de l'éducation de base que certains ont voulu confondre avec ce qu'on comprend comme cycle au niveau de l'école primaire. Nous sommes en train de matérialiser cette réforme en améliorant quelques cours, quelques enseignements des mathématiques et des sciences. Nous sommes à une année électorale. Nous devons savoir apprendre à nos enfants la culture de la paix, la culture du dialogue. C'est important pour nous éviter des dérapages inutiles. Mais moi, je dois vous avouer que je suis énuméré et j'aimerais bien remercier les partenaires. Les partenaires qui nous ont compris, pendant toutes les discussions que nous avons eues pour privilégier l'éducation de nos enfants. Vous l'avez compris vous-même que cette année n'a pas connu beaucoup de troubles, comme Maman Cécile l'a dit, par la compréhension, ils ont laissé faire. En tant que membre du gouvernement, je dois les remercier et surtout promettre que tous les engagements pris par le gouvernement seront aussi respectés, parce que nous devons aller la main dans la main à ce qui concerne l'éducation.
Madame Cécile Tchéombo, tous les engagements pris par le gouvernement seront respectés. Est-ce que cela vous apaise?
Eh bien, vous savez, chez moi, en Tchiloba, on dit « ma passa badiba mouine pa luanda ».
Traduisez.
Ça signifie que lorsque la femme est grosse et que le médecin informe que la femme devrait mettre au monde des jumeaux, c'est lorsque ces enfants-là naissent que tout le monde dira que c'est ça la vérité que le médecin a promis et a prédit. Nous disons, nous sommes partenaires et que les partenaires, ce sont des gens qui se prennent les uns les autres. C'est comme une chaîne et qui a deux maillons qui, lorsque un maillon se détache dans ce système, tout le système est biaisé. C'est là où je m'en vais dire que le ministre est à côté de moi et j'ai dit encore que c'est la personne que je respecte beaucoup puisqu'il respecte ses engagements. Mais néanmoins, je voudrais tout simplement dire que le respect des accords et le respect des partenariats est de rigueur, tout simplement puisque on ne peut pas marcher ensemble si nous ne regardons pas tous dans une même direction. Il y a ceux qui sont appelés partenaires, tout simplement puisqu'ils disent qu'ils sont partenaires, mais qu'ils ne peuvent pas aider le gouvernement dans sa tâche. Cette tâche est lourde. Nous disons qu'il faut supprimer cette prise en charge des enseignants par les parents est un système qui continue à mettre à mal l'éducation congolaise, et que les enseignants soient payés d'un salaire conséquent et qu'ils soient pris en charge comme il se doit.
Merci,
pour l'objectif que les ODD 4 soient respecté et que l'émergence du pays arrive.
Professeur Massiala, cette prise en charge des enseignants par les parents, c'est un boulet qui draine l'enseignement, l'éducation en RDC. Est-ce qu'on pourrait arriver un jour à y mettre fin? En guise de conclusion.
La prise en charge, que ce soit au niveau primaire, secondaire, qu'au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, n'est pas un salaire, mais c'est une participation financière des parents à la formation, à l'éducation de leurs enfants. Parce que si l'enseignant a moins de 100 dollars du moins primaire, secondaire par an, et tout le monde connaît la situation des logements dans la ville de Kinshasa, des transports dans la ville de Kinshasa, et le fait que l'enseignant doit être, je l'ai déjà dit, propre.
Merci, professeur.
Qui de bonnes présentations.
Merci, professeur. Monsieur le ministre, un mot en guise de conclusion.
Nous, je dois seulement rassurer que la rentrée scolaire a été bien préparée et comme tout le monde l'a reconnu, cette rentrée a été effective, peut-être encore timide, tout simplement pour plusieurs raisons qui ont été évoquées ici, mais nous avons l'espoir, tout va aller bien.
Merci mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix. Au revoir.